Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens. Très bien.
Racontez.
Oh, oui, je devais avoir 5 ans.
Et vous, quelle journée particulière choisiriez-vous ? Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Et c'est tous les dimanches à 14h sur France Inter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Michel Agnel. Bonjour Michel.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier sur France Inter.
Michel Agnel, vous avez été institutrice toute votre vie.
Oui.
Mais si je vous reçois aujourd'hui, ce n'est pas pour ça. C'est parce que vous avez été une résistante de la première heure. En 1940, vous vous êtes engagée, c'est bien ça?
Oui.
Vous aviez quel âge?
14 ans.
Vous êtes engagée dans la résistance à 14 ans. Vous avez été arrêtée, puis déportée à Ravensbrück, puis à Königsberg.
Oui, oui, mais c'est une histoire de famille.
C'est une histoire de famille, c'est-à-dire vous étiez avec votre mère.
Avec mon père, on a tous été arrêtés.
Et c'est cette histoire qu'on va raconter aujourd'hui jusqu'à 15h sur France Inter.
On va essayer.
On va essayer, Michel. Alors Michel, vous avez choisi pour commencer cette longue histoire comme journée particulière, un jour de la mi-août 1940. Ce jour-là, de retour d'Exode, vous reveniez à Paris.
Mesdames, messieurs, à l'intention des nombreux Parisiens qui ne sont pas encore rentrés chez eux, particulièrement à l'intention de ceux qui croient ne plus retrouver leur Paris, Radio Paris a fait un reportage dans les différents quartiers de la capitale. Nous avons toute l'après-midi parcouru les rues de Paris et nous avons constaté que la vie a presque normalement repris. Les cinémas sont ouverts, les terrasses de café sont pleines de monde, les théâtres cabarets plutôt, sont déjà réouverts. Au fond, rien n'est changé. À part, dans les rues, l'uniforme des troupes allemandes se mélange avec les robes d'été des jolies femmes. Après notre grande promenade, nous nous arrêtons ici sur les grands boulevards dans un café. Alors madame, vous qui avez toujours vécu à Paris, quelle impression avez-vous de Paris sous l'occupation allemande ?
Personnellement, je trouve que rien n'a changé à Paris et il me semble que les personnes ont l'air de tout aussi bien se porter, d'être tout aussi joyeuses qu'auparavant.
Et qu'est-ce que vous pensez des relations entre les troupes allemandes et la population civile?
Personnellement, je trouve que les relations sont très cordiales et je remarque que partout, les Français, les Parisiens notamment, sont très empressés à donner les renseignements que demande un soldat allemand qui cherche sa rue, qui cherche son hôtel ou qui cherche un bon restaurant.
Michel Agnel, c'est peut-être un peu dur comme entrée en matière.
C'est plein la figure.
Plein la figure. Donc c'est Radio Paris, la radio de propagande oui. des Allemands. Vraiment. C'était une archive de juillet 1940, donc juste avant
qu'on rentre.
Alors vous, quelle image?
Alors moi, c'était très net. Hein. Quand nous sommes arrivés à la gare Montparnasse, on a pris un taxi et très gentiment, le monsieur qui avait une prémonition de ce que nous étions, nous a dit « Voulez-vous visiter Paris sous l'occupation ?»
Et ça, c'était le chauffeur de taxi.
Et donc, il nous a pris tous les quatre et on a commencé à visiter Paris. Il a commencé par les Champs-Élysées. Alors là, premier coup au cœur, on a vu descendre des Allemands au pas de l'oie avec une chanson allemande et qui parle par leur pas au fur et à mesure. Et puis après ça, ça a été l'arrivée sur la place de la Concorde. Et alors, d'un côté, c'était la Chambre des députés qui était couverte par des propagandes allemandes. Ici, nous sommes enfin à Paris ou quelque chose dans ce genre-là. Et puis de l'autre côté, c'était l'hôtel Crillon, c'était pareil. Ça fait quelque chose. Hein. Je crois qu'aucun de nous n'a dit quoi que ce soit. Personne n'a pleuré, mais enfin, nous avions un gros cœur. Et puis après ça, on a pris la rue Rivoli. Et alors là, c'était encore pire, parce que toute la rue de Rivoli était couverte de... Tous les hôtels qui sont là et toutes les maisons qui sont là étaient couvertes d'étendards avec tous les signes allemands, les signes nazis. Et dans l'autre sens, arrivaient des voitures avec des officiers en grande tenue, en kaki, avec le monocle au coin de l'œil, qui faisaient le grand salut hitlérien. Et nous, on était dans notre petite voiture à regarder ça. Il y avait quasiment plus de voitures françaises, c'était que des Allemands et quelques taxis comme ça. Puis on a continué et on s'est aperçu qu'en effet, ils rentraient dans le musée du Louvre comme ils voulaient, ils en sortaient comme ils voulaient. Et puis après ça, les terrasses des cafés étaient non pas prises par des Français, mais complètement prises par des Allemands. Et c'était quelque chose qui était insoutenable. Et moi, je me rappelle qu'à ce moment-là, je me suis souvenue de ce que mon père avait dit en écoutant Pétain, qui avait dit « c'est impossible, il faut faire quelque chose ». Et tout ça, ça m'est revenu à l'esprit. Je me suis dit « en effet, il faut faire quelque chose, sinon ça restera tout le temps comme ça ».
Alors, on écoute Pétain, on écoute ce fameux discours du 17 juin 1940. «
C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie. »
Michel Agnel, c'est ce discours-là du maréchal Pétain qui vous a fait prendre conscience.
Ben c'est la réaction de mon père d'abord. Quand il a entendu ce message-là, lui qui avait été sous les ordres de Pétain en 14 et pour qui il était resté quand même le grand vainqueur de Verdun, a eu un coup au cœur et c'est lui qui, à mon avis, a été le plus choqué par ce... Bien que tout le monde était choqué, hein, on était à la fois honteux, on était à la fois en colère, à la fois on voulait se venger, on ne voulait pas accepter. Enfin, vous voyez, c'était exactement le contraire de ce qu'il raconte là-dedans. Ouais. Et quand De Gaulle, après, le lendemain, enfin, quelques jours après, on a entendu De Gaulle, eh bien, il disait exactement ce qu'on avait envie d'entendre. Et à partir de ce jour-là, sur Londres, on a écouté les Français parler aux Français tous les soirs, jusqu'à notre arrestation.
Jusqu'à votre arrestation. Et vous pensez que c'est là que, pour vous, ça a commencé?
Ah oui, c'est
la résistance.
Vraiment, j'ai été retournée de voir tous ces Allemands qui étaient là, à notre place. Ils magnifiaient leur occupation en se montrant partout, en se montrant à ce moment-là encore très correct, mais enfin pour nous, cet afflux de verre de gris était quelque chose d'impensable, d'insoutenable.
Alors, 1940, vous retournez à l'école?
Je retourne au lycée.
Vous retournez au lycée?
Oui.
Vous effacez les croix gammées?
Alors, mais il y a d'abord que ce lycée, qui était un lycée tout neuf, il avait été inauguré en 38, je crois, était occupé en moitié par les Allemands. Et nous, de l'autre côté, ils nous avaient quand même la bonté de nous laisser la moitié de... Donc, quand on était là, sans rien se dire les unes les autres, parce que c'était un lycée de jeunes filles à ce moment-là.
Bien sûr.
Il n'y avait pas de garçons. On était là et on les empêchait de passer par où ils devaient passer. On mettait nos cartables par terre dans tous les sens pour les empêcher de rouler. Ils étaient obligés de faire le tour. Et de toute façon, on était toujours là, si bien que la directrice a été obligée de venir nous faire un petit speech très gentil, nous disant qu'il fallait quand même qu'on les laisse passer. Alors, pour se venger, quand on était dehors et qu'ils nous demandaient d'aller quelque part, admettons à la Bastille, houp, on les envoyait au château de Vincennes. Et ça a été comme ça. Et puis, dans le métro, quand ils venaient s'asseoir à côté de nous, on se levait. Et dès qu'ils s'en allaient, on se mettait toutes et on prenait toutes les places pour qu'ils ne puissent pas. Des trucs qui étaient très puérils, mais qui nous permettaient de survivre avec tous ces gens à côté de nous, qui étaient en train de prendre notre manière d'apprendre. Enfin, ce qui était si important à ce moment-là, car si on n'a pas de culture, on ne sait pas se défendre.
Bien sûr, ça, on reconnaît l'institutrice en vous, Michel. Mais ce que vous êtes en train de décrire là, vous avez 14 ans en 1940, ce
oui.
sont vos premières actions
bah oui.
de résistance.
C'est pas de la résistance, c'était une manière de survivre.
Alors en 1940, Michel, vous avez certainement entendu cette chanson de Georgius, qui était un véritable phénomène de musical et que l'on surnommait l'amuseur public numéro 1.
Thank you. comme on ne trouve plus de carburant, j'ai vendu ma bagnole 300 francs et blanc. Je me suis payé un vélo hors concours qui part le matin au quart de tour. Cet amour, j'ai diminué de 100% mes frais. Je n'use que de l'essence de jarret, c'est vrai. Mais j'en ai vu d'autres et des types de choix pédaler devant moi. Je suis parti l'autre jour de plus tôt en vélo. J'ai vu des petits, des minces, des grands, des gros en vélo. Je suis arrivé en 3 semaines à Saint-Lô en vélo. Avec l'œil frais et 2 furons bleus au bas du dos en vélo. Sur la grande route, j'ai connu le grand amour. Je vis une fille aux gracieuses atours. Un jour, elle montrait ses jambes et d'autres horizons. Je me penchais bien bas sur mon guidon. Frisson, je fis demi-tour et dis où allez-vous? Elle me répondit, j'en sais rien du tout. C'est fou. Ah, ça tombe bien que je lui dis gaiement. Moi, j'y vais également. Je lui fis mon sourire le plus beau en vélo. Mais voilà que je dérape dans une flaque d'eau en vélo. Je l'éclabousse et je tombe les jambes en ciseaux dans vélo. Elle me dit en s'esclaffant, vous avez tout l'idiot en vélo. Ce début n'était pas encourageant, il fallait remonter le courant. Pourtant, dans une guinguette, je pus l'entraîner, et c'est là que j'obtins mon premier baiser. Et puis nous repartîmes sous les bois, ça sentait les violettes et les noix. Ma foi, c'est peut-être pour ça que l'on a sans mal mélangé nos pédales. On est rentré heureux comme des moineaux.
Ça vous dit quelque chose, cette chanson,
Michel ? Ça me dit quelque chose. Là, simplement l'air, mais les paroles...
Alors, Georgius, contrairement à vous, Michel Agnel n'est pas du tout rentré en résistance.
Ah oui, je sais.
Loin de là. Hein.
Loin de là.
C'est-à-dire qu'il a continué ses activités artistiques pendant l'occupation.
Mais beaucoup, beaucoup d'acteurs ont fait ça.
Bah oui.
Mais il y en a qui, quand même, dans leur speech, etc., glissaient des petites phrases qui étaient assassines pour les Allemands.
Ce qui n'a pas été le cas de Georgius. Alors, jusqu'à 15h sur France Inter, c'est la journée particulière de Michel Agnel. Résistante de la première heure, vous vous engagez donc à 14 ans. Alors vous n'aviez pas froid aux yeux, Michel, à 14 ans, parce que très vite, vous êtes mise à distribuer des tracts.
Eh bien, c'est venu assez vite, c'est-à-dire que en novembre, le 11 novembre exactement, nous avons reçu mon ancien professeur d'anglais, que nous avions eu à Fort-Mahon pendant la drôle de guerre, qui est venu nous présenter sa sœur. Et comme quand on retrouvait des gens à ce moment-là, on a essayé de savoir ce qu'ils pensaient, elles, de leur côté, et nous, d'une autre. Et tout d'un coup, on s'est vraiment trouvés sur la même longueur d'onde. Donc, quand elles sont parties, elles nous ont dit, eh bien, on va pas se quitter comme ça, on se reverra, bien sûr, on va s'écrire. Voilà, et elles sont parties. Et quelques jours après, nous avons reçu une grande enveloppe en Kraft. Quand on l'a ouvert, il s'est échappé plein de petits tracts, des petits tracts qui étaient très pratiques à cette époque-là. On pouvait les mettre dans la poche et les sortir comme ça. Et il y avait écrit, il n'y avait pas de nom, bien sûr, il y avait simplement écrit « recopier et distribuer ». Donc le soir, toute la famille, hein, mon père, ma mère, mon jeune frère et moi, on s'est mis à écrire et on a fait des quantités d'autres tracts. Et le lendemain matin, on est parti avec nos tracts dans la poche, chacun de notre côté.
Pour les distribuer
où ? Ben non, pas pour les distribuer. Ah non, jamais les distribuer. Les mettre sans qu'on nous voit. Alors, dans des boîtes aux lettres. Moi, j'habitais Saint-Mandé. Il y avait beaucoup de villas à ce moment-là encore. Et puis, on les mettait dans les... Quand on allait à la poste, quand on allait à la gare, quand on allait au métro, on les laissait derrière nous.
Mais c'était très dangereux, ça, Michel.
Ben non, on s'arrangeait pour que personne ne voit que c'était nous qui les laissions.
Mais alors ces tracts, vous les aviez dans votre cartable ?
Dans ma poche.
Dans votre poche ?
Dans ma poche, pas dans mon cartable. C'est plus tard, le cartable. Alors bien sûr, on a voulu savoir qui nous les envoyait. Bien sûr, on n'avait pas de... d'adresse, mais on a vu que l'enveloppe venait de Versailles. Et la maman des Samuel était intendante dans un lycée de Versailles. Donc, maman a téléphoné à Madame Samuel en disant « Nous avons sûrement reçu une lettre de votre fille. Est-ce qu'elle peut continuer ?» Alors, Madame Samuel a dit « Oui, elle vous a écrit. Elle peut continuer à correspondre avec vous. » Donc, on a continué à recevoir pendant plusieurs mois des cartes qui arrivaient comme ça.
Et que vous recopiez toute la famille.
Alors, elles sont devenues déjà à ce moment-là de plus en plus grandes.
Et donc, qu'est-ce qu'il y avait écrit sur ces tracts, Michel ?
Mais c'était d'abord des espèces de slogans.
Oui, du genre.
Les Allemands dehors, vive de Gaulle, une croix de Lorraine simplement avec une. Des choses très simples. Et puis par la suite, c'est devenu de véritables articles. Et après ça, tout doucement, c'est devenu un journal. Mais on n'en est pas encore là. Donc. En 41, nous avons reçu Jacqueline Samuel qui est venue nous voir en disant « Je ne peux plus vous envoyer de tract parce que j'ai été repérée à la poste. Alors si vous en voulez, il faut venir les chercher. »
Et là, vous êtes allé les chercher, Michel.
Et là, oui, il y avait un gros handicap, c'est que rentrer dans un lycée, à ce moment-là, c'était difficile. Donc, il a fallu trouver la personne qui pouvait rentrer sans être gênée.
C'était
la seule qui pouvait, c'était moi.
Vous aviez 15 ans.
Et n'oubliez pas qu'à ce moment-là, j'étais une petite fille qui n'était jamais sortie toute seule, ni rien du tout. Et tout d'un coup, eh bien, mon père, bien qu'il était un peu réticent, a dit oui, maman aussi. Et donc, je suis partie avec mon cartable jusqu'à Versailles. Et là, avec Madame Samuel, elle m'attendait, elle me donnait un bon goûter, parce qu'à ce moment-là, c'était déjà les restrictions. Et elle m'a permis de mettre à l'intérieur. J'avais pris tous les grands classeurs que j'avais. On les mettait intercalés avec les feuilles de classe. Mais le problème, c'est que de temps en temps, à la gare de Versailles, il y avait des rafles. Alors, il y avait des rafles, soit par les Français, soit par les Allemands. Les Allemands, généralement, ils se rendaient pas très bien compte de ce qu'il fallait arrêter. Et quant aux Français, eh bien, avant d'arriver vers eux, j'ouvrais mon cartable et ils me disaient « passez ».
Vous n'aviez pas froid aux yeux, pas peur ? Vous n'aviez jamais peur, Michel ?
Il fallait pas avoir peur, il fallait être conscient, simplement. C'est très différent d'être conscient que d'avoir peur. C'est-à-dire être toujours sur ses gardes, faire toujours attention à qui était derrière vous, qui vous adressait la parole.
Alors Michel, en 1940-41, alors que vous devenez messagère pour la résistance, Radio Paris, cette chaîne de propagande allemande, multipliait, elle, les appels à la collaboration.
Et voici une dame, oui, une maman. Une maman de trois jolies frimousses, qui ne sont d'ailleurs pas là.
Ah non.
Voulez-vous, madame, nous dire votre nom ?
Je suis Madame Renaudy, monsieur. J'habite le premier arrondissement.
Et votre profession ?
Je travaille dans la haute couture, monsieur.
Madame, êtes-vous d'avis que France et Allemagne doivent s'entendre ?
Oh, absolument, monsieur. Il y a là deux grands peuples que d'affreux et tragiques malentendus ont seuls pu aussi longtemps dresser l'un contre l'autre. Il faut bien le dire, monsieur. L'Allemagne est restée, pour beaucoup, un épouvantail, une espèce d'ogre.
Voyez-vous, madame, des raisons à cela ?
Oui, oui, monsieur, la propagande. Mais la mauvaise propagande. Des tortures par-ci, des tortures par-là, des pillages, enfin, etc., etc. Il faut cependant bien reconnaître que l'occupant a été très, très correct.
Absolument de votre avis.
Comme vous l'avez dit, monsieur, l'Angleterre ne peut qu'aider la France à s'enjuviver. Moi, monsieur, j'en reviens toujours à l'idée qui tient surtout à mon cœur de mère. Il ne faut plus de guerre. Et souvent, on a dit, si la France et l'Allemagne pouvaient s'entendre.
Par conséquent, votre conclusion est nettement collaboration franco-allemande.
Ah oui, monsieur, et tout à fait franchement.
Bon, Michel Agnel, c'est promis, après on arrête de vous faire écouter ces appels à la collaboration ou Radio Paris. Mais écoutez, nous, ça nous a fait froid dans le dos quand on a entendu ces archives.
Vous savez, ça nous faisait froid dans le dos aussi. Hein. Mais ils ont touché beaucoup de monde. Hein.
Bah oui, mais pas vous. Vous écoutiez tout ça.
Ah non, on écoutait les informations. Alors que ça soit sur Radio Paris, on écoutait bien sûr la BBC le soir, mais on écoutait aussi le Radio Lausanne, que je me rappelle Payot qui devait être là-bas. Et donc on avait quand même les trois visions, ce qui fait quand même on était un peu lucide sur ce qui se passait.
Alors Michel Agnel, vous avez donc été messagère, vous venez de nous l'expliquer à 14 ans, puis vous êtes devenue des helpers avec votre famille. En quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire helper ?
En anglais, ça veut dire aide, aidant, exactement. Donc les helpers étaient des gens qui aidaient les Anglais et les Américains qu'on leur amenait à passer le temps à Paris. Ou à Paris
les
ou autre part. On les cachait, mais non seulement on les cachait, mais il fallait souvent les réhabiller en entier, leur donner à manger, ce qui n'était pas évident avec les restrictions. Et puis, il fallait surtout leur faire une carte d'identité pour qu'ils puissent traverser toute la France. Parce qu'ils étaient là à Paris en attendant d'un départ pour l'Espagne.
Alors, des cartes d'identité, il fallait faire des fausses cartes d'identité.
Il fallait faire des fausses cartes d'identité.
Et Michel Agnel, vous avez fait des fausses cartes d'identité.
Alors, à la maison, il y avait non seulement les Américains ou les Anglais qui arrivaient à peu près tous les 15 jours, on allait les chercher des fois en province, des fois à la sortie du train, et on les ramenait à la maison ou on les ramenait chez d'autres helpers qui les gardaient. Donc ils les gardaient là pendant une quinzaine de jours, le temps de les acclimater, le temps de les interroger. Il y avait une de
procédure.
Nos camarades qui était vraiment moitié anglaise, moitié française, donc qui les interrogeait. Et donc, à partir de là, ils étaient prêts pour partir vers l'Espagne. Et on les conduisait à la gare d'Austerlitz, où ils étaient pris en charge par d'autres helpers, des guides exactement, qui les emmenaient jusqu'au pied des Pyrénées.
Alors, c'est comme ça, Michel Agnel, que vous êtes devenue convoyeuse aussi.
Alors, je suis toujours à l'âge de 15 ans, 16 ans. Oui, 16 ans. Disons que je suis devenue convoyeuse, non pas pour les conduire en Espagne, mais pour aller les chercher en province, ou les chercher à la sortie du train, et ensuite les mener chez des logeurs, chez des helpers.
Alors vous aviez ces grands gaillards derrière vous,
ah
ces
oui,
espèces
et moi qui
de...
suis toute petite, j'avais derrière moi des grands gaillards, 3-4 grands gaillards, ça dépendait des fois, et qui me suivaient comme l'on. Mais le problème, c'est que souvent, ils avaient encore des manières américaines, et c'est extraordinaire, c'est que nous, on les voyait, mais les gens qui nous rencontraient, même mon cousin Germain qui nous a rencontrés une fois, n'a pas vu que j'avais 4 garçons qui étaient planqués devant les vitrines et qui regardaient ce qui se passait derrière jusqu'à ce que je reparte. Les gens ne s'en sont jamais aperçus.
Alors Michel, ces activités, vos activités de résistante ont continué jusqu'au 28 avril 1944.
Alors oui.
Ça, ce jour-là, la Gestapo est venue vous arrêter.
Voilà, alors moi je suis arrivée du lycée. Et quand j'ai ouvert la porte, je me suis trouvée face à 3 gestapistes français et 5-6 feldgendarmes allemands avec leur grande chaîne autour du cou. Et là, étaient arrêtés maman, mon jeune frère, Carbonnet, qui était un garçon qui vivait aussi à la maison et qui, lui, avait comme moi, je pouvais faire ça que le jeudi. À ce moment-là, c'était le jeudi. Mais lui, il faisait ça tout le temps. Il allait chercher des gars, etc. Et en plus de ça, il avait ramené à la maison tout son matériel de carte d'identité.
Pour faire
parce
des fausses
pour les
cartes.
Faire dire. Donc toute la famille, d'ailleurs, s'était mise à faire des gardes. Chacun avait sa spécialité.
Et vous, c'était quoi, Michel, votre spécialité?
Ma spécialité, moi, c'était de rechercher le tampon qui allait avec le garçon. Et ma mère remplissait, mon père aussi. Quant à mon jeune frère, il frottait par terre pour les salir, écornait. Donc vous voyez, lui, il avait quand même à ce moment-là que 9 ans et demi, il y a 9 ans.
Et votre frère aussi a été arrêté
le
28
avril?
Non,
c'est le seul qui n'a pas été arrêté. Je pense qu'ils arrêtaient les enfants. Il était très petit, ça lui a certainement servi. Et ils arrêtaient les enfants juifs, mais ils n'arrêtaient pas Et ils les laissaient dans la rue, c'est ce qui est arrivé à mon frère. Mais avant, le jour de notre arrestation, Carbonnet, qui était à la maison à demeure, avait caché dans les water, dans la chasse d'eau des water, qui à ce moment-là se trouvait en haut, tout un carnet sur lequel il avait des renseignements très importants sur lui et le réseau. Et alors, il a eu la chance, il était supérieurement intelligent de demander, je ne sais pas comment, aux Allemands de l'emmener jusqu'aux toilettes. Un Allemand l'a emmené jusqu'aux toilettes et je pense qu'il était très prude, donc il s'est retourné. Et pendant ce temps-là, Carbonnet a eu le bonheur de pouvoir attraper dans la chasse d'eau un carnet sur lequel était tout ça. Et puis en passant, il m'a dit Jean-Marie et il m'a glissé le carnet dans ma poche. Et après ça, je suis allée réhabiller mon frère qui a fini de s'habiller tout seul. Il a refilé le carnet dans son slip et il est allé chercher pour le cacher son ours qu'il avait laissé depuis des siècles
pour le mettre
contre lui.
Et l'image, Michel, que vous avez de votre arrestation, c'est voilà, que vous êtes emmené par la Gestapo.
Alors, on est emmené, mon père et moi, ma mère et l'abbé, Jean Courcel tout seul, et les deux Anglais, car on avait aussi deux Anglais à la maison à ce moment-là. Mais ils avaient été emmenés d'abord, car ils avaient été pris pour des espions, et ils avaient déjà été torturés à la Feldkommandantur de Nogent.
Et l'image que vous gardez, Michel Agnel, c'est votre frère,
assis sur la chaussée, avec son ours contre le ventre, et nous qui partions, et la suite, on ne l'a su qu'après la guerre. Il a pris le carnet, il a attendu que toutes les voitures et tout ce qui était allemand ou départ, donc en pleine nuit, il est allé chez nos amis, qui étaient en même temps nos correspondants téléphoniques. Et alors, monsieur Hochkorn, il s'appelait comme ça, a regardé, il a dit, mais il faut absolument aller prévenir ces gens-là. Il est parti avec le carnet, et il est allé chez divers amis pour prévenir. Et puis, il y avait un couvre-feu vers 9h30, je crois. Il est rentré, mais il n'avait pas tout prévenu tout le monde. Donc,
tout
il a
laissé
son carnet dans le bureau de la petite usine qu'il avait derrière l'appartement. Et ils sont tous allés se coucher, un peu fatigués, un peu traumatisés, parce que je comprends. Et puis le lendemain matin, à 6h du matin, la Gestapo est arrivée pour les arrêter. Et c'est à ce moment-là que mon frère s'est levé, il a dit qu'il avait la colique, il est allé chercher le carnet, et dans les water, il a déchiré le petit. Et donc comme ça, les Allemands n'ont rien eu, je pense qu'ils n'ont jamais rien su de ce qui était là.
C'était tout un réseau de résistance. Alors, Michel, on est bien obligé d'avancer dans votre récit. Vous avez donc été arrêté, vous avez été emprisonné à Fresnes avec votre mère. Vous êtes resté plus de 4 mois en prison.
Oui, alors attendez, arrivé le 28 avril, mai, juin, juillet, jusqu'au 15 août.
Jusqu'au 15 août, vous avez été d'abord interrogé, vous n'avez pas été torturé, vous avez joué à l'idiote pendant l'interrogatoire. Et le 15 août
alors on a sorti tout le monde de Fresnes et on a traversé quasiment tout l'est de Paris comme ça. Et on est arrivé jusqu'à la gare de marchandises de Pantin. Et là, il y avait un énorme train qui attendait. Tous les hommes avaient été repris dans toutes les prisons de Paris et de la région parisienne, car ils étaient en train de vider les prisons. On était le 15 août et Paris a été libéré le 25. Donc on entendait le canon et on est parti, finalement, assez sereine. Donc notre train est parti. Mais il a été arrêté tout le long du chemin. D'abord une première fois parce que ça a été bombardé et donc on est descendu du train et on a fait 5 km à pied pour retrouver un autre train. Après ça, ce train s'est arrêté à 2 ou 3 fois pour prendre de l'eau car à l'intérieur on n'avait pas d'eau, on n'avait pas de quoi faire nos besoins. C'était quand même assez pénible. Et on avait avec nous toutes ces femmes qui avaient été torturées, à qui il fallait quand même donner un peu de place pour qu'elles puissent s'asseoir. Et puis on a continué comme ça jusqu'à Weimar. À Weimar, tous les hommes sont sortis. Et je pense qu'on a toute cette impression-là, c'est qu'on ne les reverrait jamais. C'était très prémonitoire, parce que finalement, la plupart de nos hommes, de nos maris, de nos pères, de nos fiancés, ne sont jamais revenus. Hein. Il y en a très peu qui sont venus. Weimar, pour moi, ça représentait tous les poètes allemands, etc., mais jamais la porte de Buchenwald, car tous les hommes sont allés à Buchenwald. Quant à nous, on a continué Berlin et puis Ravensbrück.
Vous arrivez le 21 août 1944 à Ravensbrück.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos tous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute.
Chanter, Michel Agnel, le chant des partisans.
Oui, oui, oui.
Vous l'avez sifflé aussi.
On l'a sifflé.
Dans la résistance, on le sifflait pour se reconnaître.
Mais on ne pouvait pas. C'était, on écoutait, mais on ne pouvait pas le chanter, nous. C'est ceux qui étaient dans les maquis. Mais enfin, les maquis ont eu lieu juste à la fin.
Hein. Oui. Là, on l'a entendu interprété par Anna Marly, qui est celle qui l'a composé.
Qui l'a composé.
Oui, qui était russe.
Oui.
Je ne savais pas tout ça, j'ai appris ça en préparant l'émission. Michel Agnel, on est avec vous jusqu'à 15h sur France Inter. Vous êtes arrivé au camp de Ravensbrück le 21 août 1944. Ravensbrück était un camp réservé aux femmes.
Oui, uniquement aux femmes, mais il y avait un tout petit camp d'hommes. Mais je ne l'ai jamais su tant que j'étais à Ravensbrück. Je ne l'ai appris qu'il n'y a pas tellement longtemps.
Vous ne les avez donc jamais vus?
Jamais vus.
Quelles images l'arrivée à Ravensbrück, Michel?
Alors, vous savez, quand nous sommes partis, nous pensions aller comme dans un camp de prisonniers de guerre. Et quand on est rentré là, et d'abord qu'on a vu ces femmes habillées en noir et blanc, avec des qui les faisaient reconnaître partout, ça nous a vraiment frappé. Elles avaient des figures âpres, elles avaient un petit foulard sur la tête, et elles portaient sur le dos des tas de pelles, de pioches, etc. Elles arrivaient au camp en chantant des chants allemands, et quand il y a eu un commando qui est passé devant nous, qui était un commando de française, elles nous ont crié: mangez tout, parce qu'on est arrivé avec des paquets que nous avait donné la Croix-Rouge. Mangez tout, ils vont tout vous prendre. Mais on n'avait pas faim, ce qu'on avait, c'était soif. Ça fait plusieurs jours qu'on avait été dans le train, sans boire, pour ainsi dire. Manger, on n'avait pas faim, on a rapporté tous les colis intacts. Et on avait d'ailleurs pensé que comme on serait dans un truc de prisonnier de guerre, il y aurait au moins des colis pour les autres. Eh bien, pas du tout. Le lendemain matin, on a passé la nuit dehors, il faisait très beau à ce moment-là. On avait d'ailleurs au-dessus de la tête...
C'était le mois d'août.
Oui, oui. Toutes les étoiles filantes qui passaient, c'était merveilleux. Beaucoup d'entre nous ont fait des vœux qui n'ont jamais été exaucés. Et puis finalement, on nous a débarrassé de tout ce qu'on avait. Mais absolument tout, hein. Que ce soit vos lunettes, votre montre, votre alliance, tout. Et même certaines ont été fouillées d'une manière plus intime pour voir si elles ne cachaient rien.
Mais je suis étonnée de la façon dont vous racontez, Michel Agnel, cette arrivée à Ravensbrück. C'est comme si vous ne compreniez pas encore vraiment ce qui...
Ah, mais on ne comprenait pas du tout. Ça a été comme si le ciel nous était tombé sur la tête. On était là, perdus à l'entrée du camp, en voyant toutes ces femmes habillées avec des rayures. Puis le lendemain matin, à 3h30, premier coup de sirène. Une demi-heure après, un deuxième coup de sirène. Et à ce moment-là, toutes les femmes sont sorties et se sont mises en rang... Fune sous fune, cinq par cinq, et elles ont attendu l'appel. Et pendant l'appel, il y avait les officiérines avec leurs chiens qui passaient pour compter les femmes. Je pense que c'est pas qu'elles comptaient mal, c'est qu'elles ne voulaient pas bien compter. Donc les appels duraient, suivant les temps, une demi-heure, une heure, deux heures, trois heures, quatre heures. Et pendant ce temps-là, eh bien, on restait debout. Beaucoup tombaient et il fallait les ramasser. Ça m'est arrivé une fois, j'ai pris une raclée carabinée, mais bon, je me suis relevée. Mais disons que c'était très, très difficile à supporter. Et après, les femmes de Ravensbrück s'en allaient travailler en dehors du camp. Alors, il y avait des commandos qui étaient très durs. Il y avait l'arrachage des joncs dans les... Parce que Ravensbrück était dans un endroit ravissant. Hein. Ah nous, oui. On n'aimait pas ça. Je pense que j'y suis retournée après la guerre. Et j'avais beaucoup de mal à y aller. Mais il faut que je sois lucide. C'était un endroit ravissant, au milieu des pins, avec un lac, etc. Mais dans ce lac, eh bien, nous, il fallait arracher les joncs. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'ils en faisaient. Il fallait arracher les joncs de manière à ce que ça soit libre pour que ces messieurs-dames puissent aller se baigner, je pense.
Alors Michel, je vous propose d'écouter Charlotte Delbault.
Oui.
Je vous propose d'écouter Charlotte Delbault.
Mais elle a surtout été à Auschwitz, elle.
Oui, mais elle était à Auschwitz. Mais
elle est venue à Ravensbrück.
Et elle, c'était une résistante comme vous. Oui. Et c'est elle, pour moi, qui a écrit les plus belles pages.
Mais je pense que, comme vous, je suis bien de votre avis.
Vous êtes de mon avis sur la solidarité.
Non seulement sur ce qui s'est passé à Ravensbrück, sur ce qui s'est passé à Auschwitz, mais ce qui s'est passé après.
Voilà. Et on l'écoute, si vous voulez bien.
Nous avons formé un groupe extrêmement compact. Extrêmement solides, extrêmement serrées les unes contre les autres. Et nous pouvons nous enorgueillir d'avoir le chiffre de rescapés le plus élevé de tous les convois qui sont passés par Auschwitz. 49 sur 230, c'est un record. Parce que nous sommes aidés constamment et vraiment sans aucune défaillance. Nous avons formé une espèce de corps entier qui était toujours aux aguets, toujours en éveil, toujours prêt à aider. Alors, comme tout le monde n'était pas malade, mourant en même temps, évidemment, on pouvait s'aider. Nous avions une force que donne la jeunesse, l'optimisme que donne l'habitude du combat, qui fait que lorsque nous sommes passés à l'étuvage et qu'on nous a déshabillés, tondus, bon, et numérotés, eh bien, parmi les femmes qui étaient là, certaines des prisonnières d'ailleurs, surveillées par des SS et qui faisaient le travail à l'arrivée, eh bien, il y en a une qui nous dit « Combien êtes-vous ? 230. Oh, vous ne serez plus 100 la semaine prochaine. » Or, nous sommes dit « Celle-là, elle est payée pour nous démoraliser. Qu'est-ce qu'elle veut dire ?» On dit « Pourquoi ? On va nous tuer ?» Elle me dit « Non, mais on meurt. » « On meurt ? On meurt comment ? Comme ça ? » ?»« Oui, à cause de l'appel. » Oh. Pourquoi est-ce qu'on meurt à cause de l'appel? Ben parce qu'on reste debout pendant 5 heures, tous les jours, le matin, et puis 2 ou 3 heures le soir. Et parfois toute la journée. Alors nous qui étions solides, une qui était coiffeuse, je me rappelle, à côté de moi, dit « Ben moi je travaille debout toute la journée, je peux bien rester debout. » Ah ben oui, mais ça n'était pas pareil.
Charlotte Delbault, en 1974, dans Radioscopie de Jacques Chancel, elle dit ce que vous dites. Elle
exactement.
Dit l'insouciance.
Oui, oui.
Et la solidarité.
Et la solidarité, tout de suite.
Et que faisiez-vous, vous, Michel Agnel, pour supporter l'appel?
L'appel?
Ouais.
Ben, pendant l'appel, alors il y en a beaucoup qui se racontaient des recettes de cuisine. Tout le monde priait, dans sa religion ou dans sa foi. Et même moi qui n'étais pas tellement... J'ai beaucoup prié à ce moment-là. Il faut se raccrocher à quelque chose. J'avais surtout la frousse d'être séparée de ma mère. Donc, pour moi, le Dieu était un Dieu protecteur. Et puis, en plus de ça, comme j'avais été arrêtée quelques semaines avant de passer mon bac, je commençais à me réciter dans la tête des tas de poèmes que j'avais appris au lycée, ou alors des pièces de théâtre, et puis je me récitais aussi des théorèmes de mathématiques pour pouvoir passer mon bac, et d'ailleurs ça m'a servi, puisque après la guerre, en arrivant, en rentrant, je me suis remis tout de suite au travail, et j'ai passé mon bac en septembre, avec l'indulgence du jury, je pense, mais enfin, je l'ai eu, et j'ai pu continuer après.
C'est comme ça que vous avez résisté à la barbarie? C'est comme ça qu'on résistait à la barbarie?
Il faut continuer à penser. Il faut continuer à vivre, non pas comme avant, mais avec ce qu'on avait avant, dans l'espoir que ça servira après.
Est-ce que vous chantiez?
Moi, je ne chantais pas, je chante souvent, je rêve. Mais le soir, dans les blocs, pas en dehors, mais dans les blocs, on chantait, oui.
Nacht und Nebel, Nuit et brouillard. Nous sommes
moi aussi.
Moi aussi.
Bon, où allons-nous déjeuner aujourd'hui?
Nous avons fait un beau voyage.
Nous avons fait un beau voyage.
Nous arrêtons à tous les pas.
Nous arrêtons à tous les pas.
Écoutons dans chaque village.
Écoutons dans tous les villages. De bons vins et de bons repas. De bons vins et de bons repas.
Michel Agnel, vous avez évidemment reconnu ce qu'on vient d'entendre.
Oui, alors c'est Germaine Tillion, notre courrier nationale, nous l'appelions comme ça là-bas. Je l'ai connue surtout, je ne l'ai pas connue à Ravensbrück, je l'ai connue après, très longtemps. Et c'est vrai que c'était quelqu'un d'exceptionnel. Et alors ça, elle m'a expliqué que le soir, elle le faisait dans sa petite... Elle l'écrivait pendant la journée, elle était cachée parce qu'elle avait un problème de poumon, ses copines le cachaient, la cachaient dans une boîte en carton, elle était menue comme tout à ce moment-là. Elle était ronde, mais à ce moment-là, elle était devenue menue. Et elle écrivait ça. Et le soir, avec les filles du camp, quand elles étaient dans leur chambrée, elles mettaient ça au point et toutes ensemble, elles chantaient.
Elles chantaient. Donc ça, c'était un opéra qui a été écrit.
C'était un opéra et il n'a pas été joué en entier à Ravensbrück. Il a été joué par petits bouts et il a été joué seulement après la guerre, il n'y a pas tellement longtemps, au Châtelet.
Vous y étiez?
Oui.
Et alors?
Ben, moi j'étais loin, mais heureusement que je connaissais les paroles.
Michel Agnel, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale.
Oui.
Hein, avant qu'on avance dans votre récit.
Allons-y.
Hein, allons-y.
The last time we were together, lately it feels like forever. And the way we talked last night, it felt like a different kind of fight. Second to dry my eyes. Give me one more day to realize. Smoke's in our eyes or in the distance. Either way, we're gonna miss. Give me one more year to get back on track. Give me one more life to win you back. Smoke's in our eyes or in the distance. Either way, we're gonna miss it.
Particulière, Zoé Varier sur France Inter.
Michel Agnel, vous n'êtes pas resté à Ravensbrück. Ravensbrück, vous y êtes passé seulement.
Voilà, nous y sommes restés 3 semaines en quarantaine. Et nous avons été renvoyés dans un petit camp au nord, tout près de la Baltique, à Königsberg sur Oder. Et on s'est trouvé à côté d'un champ d'aviation qui se construisait, avec toutes les casernes des soldats qui étaient là. Et c'était un camp, on avait l'impression qu'il n'avait pas été occupé depuis pas mal de temps.
Et là, les conditions
étaient... Alors là, les conditions étaient épouvantables. Et le travail était aussi épouvantable. Et en 3 mois de temps, les femmes étaient devenues absolument méconnaissables. C'était quasiment des squelettes. Et puis, le 31 janvier, ce jour-là, j'avais été prise, alors que d'habitude, j'essayais de me cacher le plus possible, et j'étais à la forêt. On a vu arriver un Allemand, alors que d'habitude, ils sont raides, comme passe-lacets. Là, il est arrivé avec les cheveux ébouriffés, et on le voyait qu'il avait dû souffler tout le long de la route. Et à ce moment-là, on a vu les autres Allemands qui s'énervaient un petit peu, qui nous ont dit de tout laisser sur place, alors que d'habitude, il fallait tout ranger. Et on est reparti derrière eux, en ayant beaucoup de mal à les suivre à pied.
Sans comprendre ce qui se passait. Ça, c'était le 31 janvier 1945.
Exactement.
Et le soir du 31 janvier, pas d'appel.
Pas d'appel.
Rien.
enfermés dans les chambres. Et en fait, on n'a pas d'appel, pas à manger, mais pas à manger, ça nous était égal du moment qu'on n'avait pas d'appel. Et on est resté là toute la nuit, et dans la nuit, on a entendu du bruit. C'était les Allemands qui s'en allaient, mais on ne le savait pas, et qui emmenaient avec eux toutes les Russes et les Polonaises qui ne voulaient pas rester. Et le lendemain matin, quand on s'est réveillé, pas d'appel, on n'a pas bougé, on a attendu qu'il fasse jour, on n'a vu personne. Alors on est passé à quelques-unes par la fenêtre qu'on a ouverte quand même, et on a pu aller voir dans le camp, et là on a vu qu'il n'y avait plus d'Allemands. Et en ce moment-là, on a commencé à chercher à manger, la première des choses. Donc on a été d'abord dans les locaux des Allemands, on a récupéré tout ça, puis on est allé plus loin dans la caserne, ces fameuses casernes qui étaient magnifiques. Et là, on a vu qu'en effet, ça avait été la fuite. On voyait les lits des enfants qui étaient défaits, les biberons sur les tables, les assiettes qui n'étaient pas finies, la bière qui était encore sur la table, les lits qui étaient grands ouverts. Et alors, on s'est rendu compte que là, il n'y avait plus un Allemand. Il n'y avait plus un Allemand.
Et donc vous êtes jeté sur cette nourriture, vous avez mangé
jusqu'à ce qu'on trouve l'intendance. Et là, alors, on est trouvé sur un nid d'abondance. On a trouvé des quantités de choses. C'était un mirage pour nous. Vous savez, les prisonniers, quand ils sont libérés, ils trouvent tout et n'importe quoi. On a trouvé des bassines, on s'est lavé. Et le 2 au soir, c'était le jour des crêpes, donc on avait quand même récupéré, mais on n'avait pas perdu le nord, on avait récupéré de la farine, du lait en poudre, du sucre, des œufs. Et avec tout ça, on s'est mis à faire... On avait dans ce petit camp, le seul luxe qu'il y avait, c'était un poêle dans chaque chambrée. Et là, on a commencé à faire des crêpes. Et alors, le soir, sont arrivés 3 officiers allemands, des super officiers, qui sont rentrés. Et quand on leur a offert une crêpe, ils nous ont laissé. Mais ils nous ont dit, on viendra demain matin. On croyait que c'était de la blague.
Alors, le lendemain matin, effectivement, les Allemands sont venus vous rechercher.
Alors, c'est là où il y a eu un drame épouvantable qui s'est passé. Alors, le lendemain matin, on était encore tout endormis, et alors on avait quand même pris nos aises, on avait trouvé des chemises de nuit, donc on avait mis des chemises de nuit, vous savez, la rapia, elle a fait le tour de... Et ils nous ont fait lever à toute vitesse, et tourruc, tourruc, tourruc. En fait, c'était les Allemands qui venaient rechercher toutes ces femmes qu'ils avaient laissées, car il ne fallait pas qu'ils laissent de traces derrière eux.
Donc ils sont venus, les Allemands sont revenus vous chercher pour vous ramener à Ravensbrück.
Voilà, pour nous ramener à Ravensbrück. Alors, ils ont tourruc, tourruc, tout le monde est sorti, mais... Dans notre chambrée à nous, nous avions une travailleuse libre. Elle est allée leur dire, mais ici, elles ont le typhus. Et quand on connaît la réaction des Allemands quand on leur dit ça, ils nous ont dit, tsuruk, tsuruk, tsuruk. Ils ont attrapé un jerrycan d'essence, ils l'ont versé dans notre chambrée, et le camp s'est mis à brûler de partout. Et nous, pendant ce temps-là, pendant qu'ils s'occupaient de nous, puisqu'ils nous avaient mis à brûler, on est parti au fond de notre chambrée, et par la fenêtre, on est sorti. Et ma mère, qui ne pouvait plus marcher, eh bien, on l'a portée jusqu'à... Et elle a commencé à remarcher, comme quoi le moral est très important. Et on a pu faire le tour du camp autour des flammes, et aller jusqu'au revir, où là, il y avait toutes les malades qui étaient... Alors, il y avait de tout, il y avait des typhoïdes, il y avait un peu de tout. Celles qui tenaient debout, on a réussi à les faire sortir. Les autres, on a attrapé tous les matelas, etc., celles qui étaient les plus solides. Et on les a sortis. Et on est allé derrière un petit mur qui ne brûlait pas. Et on est resté là toute la nuit à attendre que ça s'arrange. Et au milieu de la nuit, il s'est mis quelque chose d'exceptionnel. Il s'est mis à faire beaucoup plus tiède. Et le froid qui était si terrible s'est relevé. Il s'est mis à tomber de la neige comme je n'en ai jamais vu. Et la neige était tellement forte qu'elle a arrêté les flammes presque partout.
Et ça, c'est ça qui vous a sauvé.
C'est ça qui nous a sauvés. Sur 250, nous sommes redevenus à 92 sur les 250.
Vous arrivez quand à Paris,
Michel ? Attendez, c'est pas terminé. On s'est gâché, on a attendu pendant 2 jours, sans boire et sans manger. Et un matin, on est venu nous réveiller en nous disant « ils sont là, c'était les Russes ». Et à partir de ce moment-là, on a été libérés, les Russes. On s'est rendu compte seulement à ce moment-là dans quel état on était. Ils nous regardaient avec un visage et des yeux tellement pleins de pitié que on recevait cette pitié et on s'est aperçu à ce moment-là qu'on était quasiment plus, on n'avait plus figure humaine. Et on a été merveilleusement soignés jusqu'au 11 juin 1945, à la date à laquelle les Russes ont fait un énorme convoi pour rapatrier tous les Français.
Et vous avez passé la frontière le 21 juin 1945.
À 7 heures du soir. J'avais pas l'impression, je m'étais dit, oh, ça sera comme... Eh ben non, quand on a vu France, je sais pas comment vous dire... Il y a quelque chose qui s'est déclenché en nous. En fait, le pays, la patrie, ça veut dire quelque chose quand on l'a perdu.
Je vous propose, avant qu'on se sépare, Michel, Agnelle, de vous faire écouter Germaine Tillon.
Germaine Tillon, vous avez été arrêtée le 13 août 1942.
42.
Vous êtes restée à Fresnes pendant
14 mois
et ensuite ?
Ensuite, Ravensbrück tout le temps.
Votre mère a été arrêtée en même temps que vous ?
Ma mère a été arrêtée en même temps.
Elle était avec vous dans le camp ?
Ma mère était avec moi dans le camp, oui. Je préfère pas parler de ça.
Quand vous êtes rentré de déportation, vous pensiez certainement qu'il y avait une grande différence entre ceux qui n'avaient pas été déportés et vous, n'est-ce pas ?
Je le pense toujours.
Comment étiez-vous à votre retour ? Découragé, désespéré, obsédé ?
Quand j'étais à mon retour. Vraiment, j'étais... Oui, vraiment. Écœurée de la vie, vraiment, écœurée. Je me souviens d'un sentiment, c'est curieux d'ailleurs, toute la période qui a suivi mon retour de captivité, où je l'ai oublié, où les choses dont je me souviens, je les vois comme à travers un brouillard noir. Je ne peux pas, par exemple, passer dans les rues où j'ai habité dans les années qui ont suivi immédiatement mon retour. Rien que de passer dans la rue, avant même d'arriver à la maison où j'ai habité, je sais que je vais y arriver parce que je sens quelque chose qui se tord à l'intérieur du cœur. Et pourtant, c'était terminé. Il me semble que c'est le moment où j'ai le plus souffert.
Tout de suite après ?
Tout de suite après.
Et pendant combien de temps, ça ?
Des années.
Michel Agnelle, est-ce que vous aussi, à votre retour, c'est le moment où vous avez le plus souffert ?
J'ai pas le plus souffert. J'avais ramené maman, et ça c'était merveilleux. Je m'étais battue, si on peut dire, enfin j'avais fait tout ce qu'il fallait pour ne jamais être séparée d'elle au camp. Et ça c'est quelque chose qui nous a sauvés toutes les deux. Mais alors, quand on est arrivé en France, les gens ne nous comprenaient pas. Et finalement, moi en particulier, je me suis recroquevillée sur moi-même. Alors que maman, elle parlait tout le temps du camp. C'était assez pénible d'ailleurs, mais je pense qu'elle en avait besoin. Moi, je me suis mariée, j'ai eu un enfant, je me suis reconstruite complètement. Et elle n'a pu se reconstruire que sur des ruines.
Plus loin, dans cette interview de Germaine Tillon, Elle dit qu'elle détestait parler de la déportation. Vous, Michel Agnelle, quand est-ce que vous avez commencé à en parler, commencé à témoigner ?
Oh, très tardivement. Quand les négationnistes ont commencé à parler, bon, j'ai commencé à beaucoup lire ce qu'il en était, et ma mère aussi. Et un peu plus tard, maman est arrivée avec un tas de journaux. Elle m'a acheté tous ces journaux sur mon bureau, et elle m'a dit « Et maintenant, tu n'as plus le droit de te taire. » Et j'ai suivi son conseil.
Merci Michel Agnelle. Depuis des années, vous témoignez, vous parlez aux élèves, dans les classes, vous ne cessez de témoigner. Et puis là, votre témoignage a été recueilli par Sophie Carquin dans un livre vient de sortir aux éditions Alizio qui s'intitule « Nous étions résistantes
»,
où on peut lire en détail votre histoire que nous n'avons fait que survoler pendant cette heure. Merci Michel d'avoir passé cette heure avec nous. Je vous conseille aussi de lire Auschwitz et après la trilogie de Charlotte Delbault. C'était une journée particulière. Une émission préparée par Hugo Combe, Alina Anne Delaveau, à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka et à la technique Alice Barrois. On se retrouve dimanche prochain. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter et surtout podcaster cette émission sur le site de France Inter. Passez un bon week-end.